Et c'est parti, les amis, Boker Tov. Boker Tov, les Koulam. Eh ben c'est bien gentil à toi. Et donc, après cet intermède politique...
On va rien changer, on croit qu'on change le vent, mais bon.
Ça, non ?
C'est Akol Bidei Shamay.
Chutz mi Yirat Shamay. Bah, le Rav, il s'est exprimé déjà sur... Non ? C'est déjà là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Nous ? Nire ? On verra bien. On verra bien.
Mais on a vu déjà.
Ah bon, déjà ?
Ça se doute également. On n'a plus le masque.
Extraordinaire. Première réalisation du gouvernement. C'est pas mal.
Il
est fait.
Ouais, il n'a rien à voir, Nathalie Roulin.
Ah, bah non, c'est plus lui.
Non, c'est pas lui.
C'est plus lui, ça y est.
Et puis c'est quelque chose de bien.
Avant ça, c'était pas bien. C'est la preuve, en fait, que ça va marcher. Il a fait mode. Tav, alors les amis, Anarno Roserim, on revient dans notre étude du livre de Oroth du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kouk. Et après un intermède terrible la semaine dernière, où je n'étais point là, eh bien nous reprenons notre étude et nous avons, il y a deux semaines, terminé la première partie de Oroth qui s'appelait Eretz Israël. Ce qui veut dire que maintenant, eh bien nous allons pouvoir tout simplement commencer la partie du Rav Kouk qui s'appelle Amilchama. Alors, avant qu'on rentre dans le texte, il y a plusieurs introductions qu'on doit mettre en place avant de commencer de lire Amilchama. La première, c'est que, je pense que je vais dire quelque chose d'assez évident, d'après le judaïsme, Milchama Zera. La Milchama, c'est pas bien. C'est mieux la paix que la guerre. Non, tu me dis évidemment, mais comme on va voir ici tout un texte qui va nous parler pendant 10 chapitres de la notion de guerre, peut-être qu'on aurait pu penser qu'il y a une idéalisation de la guerre et que l'âme Israël est un peuple, un peuple de guerriers qui veut assoiffer de sang. Eh bien non, Amilchama Zelotov. Ok ? D'ailleurs, quand je dis Amilchama Zelotov, est-ce qu'il y a des Milchamot qui sont...
Qui sont bien.
Non. Qui amènent du bien, peut-être. Mais est-ce qu'il y a des milchamot qui sont obligatoires? Ah, quand on est attaqué, on n'a pas le choix.
Les grandes guerres qui ont eu en Israël, de conquête et de défense.
Voilà, c'est-à-dire que... Tu veux dire qu'aller conquérir le Kenya...
Non.
Non, ça nous a été promis. Bon, tiens, Tov, le tout seul.
On commence d'abord.
Oui, j'ai repris ta formule.
Le Liban, la Syrie, après le Kenya. Déjà le Kenya.
Ah, tu dis d'abord le Liban, la Syrie.
Le grand Israël, d'abord.
Le grand Israël. Il y en a un petit. Il y en a un petit.
Oui, celui qu'on est maintenant.
Ah, celui qu'on est maintenant, on se rapproche de Eretz Kenan. Ron, tu te rappelles, il y a deux terres. Il y a la terre qui s'appelle dans le Tanakh Eretz Kenaan, la terre de Canaan. Et il y a également à Aretz Azot, Eretz Israël, qui elle est beaucoup plus grande. Aujourd'hui, on est plus ou moins propriétaire de Eretz Kenaan. Il nous manque un petit morceau au nord, mais on a conquis un peu plus au sud. Donc, on équilibre un petit peu. Quoi qu'il en soit, il y a des guerres qui sont... ce qu'on appelle Milchemot Mitzvah. Alors, sans parler de la guerre de défense, où on vient t'attaquer et tu vas te défendre, donc ça c'est une évidence. Mais il y en a d'autres des Milchemot Mitzvah. Il y a par exemple la guerre contre les sept peuplades cananéennes, c'est-à-dire pour conquérir et battre les sept peuplades cananéennes.
Même s'ils sont en dehors de territoire.
Ah non, effectivement, cette guerre contre les sept peuplades cananéennes. Elle n'a de raison d'être que s'ils sont en Eretz Kenan. S'ils décident de partir, non seulement on ne leur fait pas la guerre, mais en plus on les aide à partir.
Et
Et maintenant, les rencontres, dans quel rang?
Attends.
C'est Dieu qui nous l'a ordonné. C'est Dieu qui nous l'a ordonné, la guerre contre.
Oui, c'est ce qu'on appelle une mitzvah. Une mitzvah, ça veut dire que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand on parle des sept peuplades cananéennes, eh bien, je vous dis, si l'une des sept décide de ne pas faire la guerre avec nous, elle a peur de nous et elle veut partir.
C'était le cas.
Il y a eu un peuple, c'était le cas, c'était le Girgashi. Un Girgashi, qui fait partie des peuplades cananéennes, n'a pas voulu nous faire la guerre et est parti. Eh bien, on ne les a pas poursuivis, on les a même aidés. Et où est-ce qu'ils sont partis?
En Afrique.
Ils se sont installés en Afrique, c'est au Kenya. C'est grand l'Afrique. Où ils ont été?
En Afrique.
À la Goulette. Exactement. Ils ont été en Tunisie. Mais c'est pas une blague. Ils ont été en Tunisie et ils ont créé un empire qui s'appelle l'Empire de Carthage.
Ah oui.
Eh oui, Carthage, c'est Tunis. Eh bien, l'Empire de Carthage, c'est le Girgashi. Ce sont des Cananéens, les Carthaginois.
Comment est-ce qu'on arrive à
cette conclusion? C'est historique. Quoi?
C'est avec quel écrit?
Comment ça, quel écrit? On a plein des écrits carthaginois. On a plein d'écrits romains qui parlent de la guerre de Carthage. On sait d'où ils viennent. Mais on sait d'où ils viennent, les carthaginois. Les carthaginois, on sait d'où ils viennent. Ce sont des phéniciens cananéens qui viennent de chez nous. Ma baïa.
C'est quand même plusieurs siècles après, Carthage.
Oui, bien sûr. Et alors? Ça met du temps de, oui, ça met du temps d'arriver et de faire un empire.
Oui, non, mais oui.
Pas de 3000 ans.
Évidemment. Non, quel 3000 ans? Ah, putain! Il y a maximum 500 ans. Maximum. Entre le moment où l'Empire de Carthage, ou le moment où les Girgashim sont arrivés en Tunis, et où il y a eu l'Empire de Carthage, il y a 500 ans. Et la guerre entre Carthage et Rome, c'est plus tard. D'abord, il y a eu un empire.
Mais ça date de quelle époque? Ça a commencé à quelle époque?
Quoi, Carthage?
Qui sont partis,
Ah, bah c'est l'époque de Yoshua!
De l'époque de Yoshua, mais Yoshua, c'est plus de 3000 ans!
Et alors? Ah, c'est ça que tu dis? Ah, excuse-moi, j'en prends, je comprends
ce que
tu
dis.
Non, pour moi.
C'est hier 500 ans?
Non, j'ai dit qu'il y a eu 500 ans entre le moment où ils sont arrivés et le moment où ils ont fait un empire. Attends, moi, j'ai pas compris ce que tu disais. Autant pour moi, c'est clair. Bekitsour, donc, le Girgashi, il est parti. Ok. Il y a d'autres peuples qui peuvent ne pas avoir envie de partir.
Quelqu'un qui a dit une fois dans un cours.
Oui.
Il y a une plaque sur la route de Constantine en Algérie. Où, il y a une plaque comme ça qui remémore le peuple qui est parti.
Ah ouais, ouais. Il est fait.
Comme ça,
c'est possible, hein, pourquoi pas. Donc ça, c'est la première option. Il y a une autre option. Je refuse de partir de chez moi, mais d'un autre côté, j'accepte que Israël, maintenant, c'est eux les patrons, et je deviens une minorité nationale qui accepte la loi du pays. Ça aussi, c'est possible. Il y en a un qui a fait ça aussi. Bon, il l'a fait de manière...
Détournée.
Les Givonim.
Les Givonim.
Voilà. Givonim. Mais au final, ils ont un statut de minorité nationale.
Les
Druzes aujourd'hui, par exemple.
Mais avec l'interdiction d'avoir des Isidoles, quand même.
Oui, évidemment, ils doivent respecter les sept lois de Noir, bien évidemment. Ils doivent respecter les sept lois de Noir. C'est pas mal.
Je vais mettre les haut-parleurs, là, 5 fois par jour, c'est respecter les lois du pays.
Ben oui, puisque c'est le pays qui est suffisamment idiot pour le laisser faire. Je veux que tu comprennes une chose. Quand on interdit de défiler avec des drapeaux, qui interdit? C'est nous, c'est notre gouvernement.
Exactement.
Alors on est bêtes, certes, mais c'est nous qui sommes bêtes. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui nous a imposé.
Si, le Hamas.
Mais pas du tout. Le Hamas a proposé.
Le
Hamas a proposé, on a accepté. D'accord. C'est-à-dire, Bekitso, donc ça c'est une sorte de guerre. Mais il y a une autre guerre qui s'appelle la guerre contre Amalek. Sauf si Amalek décide de faire le shalom. Et il y a une guerre qui avait été donnée, mais qui n'est pas une guerre les Dorotes, qui est une guerre juste à un moment donné, c'était la guerre contre Midian. C'est-à-dire, Milchemet Midian, où ça?
Vous n'avez pas aidé en
bas. Ils n'ont pas voulu donner
des Dorotes. Non. Ma pitom, Rabbi Isaï. ceux qui n'ont pas voulu donner de l'eau, c'est Ammon ou Moab. Que Davka Dieu nous dit, on n'a pas le droit de leur faire la guerre. On n'a pas le droit de leur faire la guerre. Lo titgar bam milchama. Parce que c'est, voilà, c'est les enfants de Lot. S'ils nous attaquent, on ne va pas cesser de les tuer, évidemment. Mais on n'a pas le droit de leur faire la guerre. D'accord ? Maintenant, le fait qu'ils n'aient pas voulu nous donner du pain et de l'eau fait qu'on ne va pas les accepter, Bdika Hachem. Ok ? Mais ça n'a rien à voir avec le fait de faire la guerre. Les Moabites, on leur fait la guerre à cause de ce qu'ils vont nous faire dans la fin de la paracha de Balak. Ok ? Donc, ce sont... c'est autre chose. Midian, c'est rare, autant pour moi, j'ai dit Midian. Midian. Midian, c'est là qu'on va recevoir l'ordre de leur faire la guerre à cause de ce qu'ils nous ont fait dans la fin de la paracha de Balak avec les...
Quoi ? J'ai dit Midian.
Non, mais non, oui, mais tu as copié-collé Midian avec l'eau et le pain. C'est-à-dire ? Donc, maintenant, il y a quand même une question qui se pose. Alors, ok, il y a des guerres qui sont mentionnées dans le Tanakh comme étant des mitzvot. Mais le problème, c'est que quand on y regarde de près, la façon dont on nous dit de faire la guerre dans le Tanakh, c'est absolument horrible. C'est d'une violence absolument terrible. On a parlé là de Midian, Milchemet Midian. Dans la Milchemet Midian, il se passe un truc, mais terrible, qu'aujourd'hui la Convention de Genève n'accepterait pas du tout et on serait mis au banc de la société. Mamash, c'est pas un petit missile à Gaza. Hein.
Massacrer tout le monde.
Dans la Milchemet Midian, bon, il y a la guerre. On les a éclatés pendant la guerre. Et puis après, on revient au camp d'Israël et Moshe passe en revue les troupes. Et à ce moment-là, eh ben, il se rend compte que ben, les soldats ont fait ce qu'on fait dans les guerres en général. Ils ont pris du butin et ils ont pris les femmes et les enfants. Pourquoi les femmes ? Ben, pour se faire plaisir. Et pourquoi les enfants ? Pour en faire des esclaves. C'était la mode à l'époque. Moshe arrive et il dit, pas du tout. Vous pouvez garder les femmes qui n'ont jamais connu d'homme, mais toutes les femmes qui ont déjà connu un homme et les enfants, ils sont déjà prisonniers. C'est-à-dire qu'il y a un massacre qui est mis en place dans le camp des prisonniers. Ah, c'est chaud patate, hein. Non.
Il dirait à Richard, regarde, il réfléchit, il a les yeux comme ça.
Ben quoi ? C'est très grave. Quoi ? Ah, on entend. Ah, on fait moins les malins là tout de suite, hein ?
On s'est habitué.
Non, hein.
À le lire.
T'imagines si on fait ça aujourd'hui ?
Quand on voit la guerre qu'il y a eu le mois dernier, et tout ce qu'on a fait en envoyant des tracts avant de tirer.
Ah, on est loin de.
Ça change un petit peu.
Hein, ça change un petit peu.
Ouais.
De toutes les façons, quoi qu'on fasse, nous sommes condamnés. Mais, de toutes les manières. On a fait attention pour ne pas toucher les civils et tout ça. De toutes les façons.
Donc c'est pas la peine de faire attention.
Plus ou moins.
Non.
Qu'est-ce qu'il dit ?
À notre époque, c'est difficile.
De toute façon, nous sommes condamnés.
Même les femmes et les enfants n'auraient pas pu survivre sans nous. Nous sommes
morts. Ah, donc tu dis si déjà on leur fait une faveur.
C'est Zadik qui meurt de faim.
Non, ah, c'est trop sympa.
C'est contre la morale.
Ils auraient fait, non. Ez et Zadik. Ez et Zadik.
Ça va contre la morale. C'est pas assez.
C'est caché. Emmet, que c'est caché. Et c'était très caché aussi pour un des élèves du Rav Kook. Le Rav Kook, il avait un élève qui s'appelait Arav Moshe, Dr. Zaydel. Arav Moshe, Dr. Zaydel.
Docteur, c'était son métier.
Il s'appelait Moshe Zaydel, c'est ça son nom. Et il était docteur en... Je ne vais pas dire une bêtise.
Docteur, c'est docteur, c'est ra.
Non, il avait un doctorat, mais je ne me rappelle plus en quoi exactement. Je ne me rappelle plus en quoi exactement, Moulom Chané. Et le Rav Kook, il mettait tout le temps l'accent de dire Arav devant son nom en hébreu. Et le titre docteur devant son nom de famille. Donc il l'appelait tout le temps un Rav Moshe, Dr Zeidel. Et le Rav Moshe, Dr Zeidel, il avait beaucoup de questions. C'était la chavruta du Rav Binyamin Moshe, Dr Levin. C'était deux élèves de la yeshiva de Telz. Les élèves qui étaient déjà des rabbanim eux-mêmes. Et quand ils avaient des sheelot be'emuna, eh ben ils envoyaient des questions au Rav Kook. Et le Rav Kook leur répond, il y a énormément de réponses du Rav Kook dans Igrot Reiya, au Rav, à Dr Zeidel et à Dr Levin. Mais Kitzur, l'une des questions du Dr Zeidel, c'est, du Rav Moshe Zeidel, c'est de dire comment est-ce qu'on comprend la barbarie des guerres du Tanakh. C'est notre question. Et le Rav Kook répond dans Igrot Reiya et il dit la chose suivante. « Uleinian amilchamot » Et à propos de ce que tu me dis sur les guerres, qu'on a été extrêmement violents, machin. Tsarich atal adat. She'en lecha letaer. Tu dois savoir, tu ne peux même pas t'imaginer ce qu'était la bassesse morale des Cananéens. La bassesse morale des Cananéens. Alors, on a peut-être du mal un peu à comprendre ce que c'est que les Cananéens, parce qu'on ne les connaît pas trop bien. Mais je vais vous aider à comprendre leur niveau moral est très, très, très bas. Les Romains, on connaît un peu mieux. Les Romains, on connaît, on a plein d'écrits, on a plein de témoignages, on connaît. Bon, on est d'accord que les Romains, c'est pas non plus
des enfants de cœur.
Des enfants de cœur. Quand on parle des jeux du cirque, on peut pas dire que le respect de la vie était la chose principale de leur identité.
Faut bien vivre.
Je veux dire, les gladiateurs, c'est quand même un concept. Or, lorsque les Romains sont en guerre contre Carthage et qu'ils font le siège de Carthage, il y a des historiens romains qui vont relater les événements et ils sont choqués. Les Romains, qui sont des pourris, qui sont des chaufferets d'Amim la Méhadrine, ils sont terriblement choqués de voir le comportement des Carthaginois, donc des Cananéens, qui vont balancer 300 bébés du haut des murailles en sacrifice aux dieux pour les faire gagner la guerre contre Rome. Et les Romains écrivent, des gens comme ça, qui sont prêts à sacrifier leurs bébés, il faut absolument les tuer.
Les Romains.
Ça, c'est les Romains qui parlent. Donc si les Romains, qui sont des pourris moralement, sont choqués des Carthaginois, bah, tu t'imagines un petit peu quel était le statut moral des Cananéens.
Mais chacun raconte son histoire.
Non, mais ils ont vraiment balancé 300 bébés.
Bon, le contexte. Bon.
Bah, le contexte, c'était le sacrifice aux dieux.
Ils n'avaient plus rien à manger, alors.
Ah, tu dis c'est pour... Tu dis c'est pas... D'accord, donc toi, c'est bien.
C'est des bébés des esclaves. C'est
voilà, ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais qui t'sou, Rabotai, nous dit le Rav Kook, les Cananéens, c'était d'une bassesse morale absolument terrible. Or, Emayou Zeeve Erev Mamash, des loups enragés. Dit le Rav Kook, pour combattre un loup enragé, tu ne peux pas être un agneau.
Ils n'ont pas changé.
Non, ils n'ont pas changé. Il dit, tu ne peux pas combattre un loup enragé en étant un agneau. Mais le chidouche, c'est qu'il dit, tu ne peux pas non plus le combattre en étant un loup. Parce que c'est pas assez.
Il faut être,
alors lui il écrit lion, mais moi j'aurais écrit un tyrannosaure rex à laser incorporé. C'est-à-dire que tu te dois d'être encore plus violent qu'eux pour les atil pachad à la praim, pour faire peur aux pourris qui sont là-bas. Pourquoi ? Pour que finalement la morale du judaïsme puisse s'imposer dans le monde. Shalom, monsieur le président.
C'est exactement ce qui se passe maintenant.
Ben, c'est exactement pas ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la fameuse phrase de beaucoup de gens qui se comptent parmi le côté gauche de la carte israélienne politique, qui nous disent que, et d'ailleurs, ça rentre aussi dans le côté droit, puisque maintenant tout le monde pense comme ça, malheureusement, on te dit, tu dois pas te rabaisser à leur niveau. Les Arabes nous attaquent de manière complètement barbare. Ils balancent 1000 roquettes au hasard. sur les femmes, les enfants.
Ils se protègent avec les enfants aussi, c'est encore cette...
Hein? Ils se protègent avec les enfants et ils attaquent nos enfants en tirant d'une école, ce que tu veux. Et nous, chas v'shalom, de descendre à leur niveau. As chidush, iné, je vous le dis, assour de ne pas descendre à leur niveau. Il faut descendre à leur niveau, voire même être pire que eux. Pourquoi? Pour qu'après, ils n'osent plus nous attaquer.
Ce qui est étonnant,
ça n'éteint pas sur ta personnalité.
Ah, il y a fait.
Pourquoi les nouveau-nés de une semaine de cela, on les a aussi massacrés? On aurait pu les éduquer autrement, ils seraient devenus...
Quoi, tu veux que nous, on les éduque?
Non, mais les bébés qu'on a, les enfants et les enfants et les femmes, il fallait les tuer. Parce que...
Ah, là-bas.
Oui, là-bas.
J'ai compris.
On aurait pu dire jusqu'à 8 jours.
Ah, mais c'est pas pour eux, t'as pas compris.
C'est pas léger.
Non, t'as pas compris. C'est pas pour... Moshe, il dit pas, hein. Faut les tuer, eux, parce qu'ils vont devenir pourris. Non, c'est pas pour ça. Pour les autres. C'était pour la til pachad, que quand Israël avance, les gens ont peur du Ham Israël.
C'est encore plus barbare qu'on imaginait que ce soit.
Bien sûr, mais c'est la seule réponse à cette situation-là, à cette époque-là. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé. Tu n'es pas obligé de faire comme ça. Tu n'es pas obligé de prendre les gens au hasard et les tuer au hasard. Par contre, tu peux leur montrer véritablement que tu es beaucoup, beaucoup plus fort qu'eux. Et tu peux leur faire mal là où ça leur fait mal, pas là où ça leur fait pas mal. Allez, il n'y a aucun intérêt de détruire des maisons ou des bâtiments ou de leur tuer des terroristes.
Ou de leur tuer leurs bébés, puisqu'ils sont capables de les balancer par
donc la...
Il faut qu'ils disparaissent.
Non, pas du tout. Il faut leur montrer qui est le patron. Or, comment tu fais? Eh bien, je te donne un exemple. Il y a un missile ou un terroriste qui part d'un village. Eh bien, on rase le village.
Exactement.
Pas forcément en tuant les gens dedans, pas du tout. Les gens, tu les sors du village et tu rases le village. Et après, tu te débrouilles. Les gens, je peux t'assurer qu'après, ils ne vont plus protéger le terroriste qui tire de leur village.
C'était
avant,
là.
Ça
ne les arrête pas, regarde.
Non.
C'était avant.
C'est vrai, c'était avant. C'est-à-dire. Ah, il a fait, c'est ce que je te dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peur du monde entier au lieu de faire la seule chose qu'il faudrait faire.
Oui, on a peur, on s'est rendu dépendant de quelque
chose. On a peur. La preuve, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Poutine.
Oui, mais lui, c'est...
Lui, il s'en fout.
Ah, lui, il s'en fout de tout.
Ça a l'air. Et ça n'empêche pas d'être parmi les plus grands dirigeants du monde. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Monsieur Trump ou Monsieur Biden qui s'en fout aussi. Que quand il envoie ses gens en Irak, il s'en fout aussi de ce qu'il fait. Et que Erdogan, je t'en parle même pas, que M. Xi Jinping, il s'en fout aussi. Donc, il y a un moment donné, M. Macron, il s'en fout aussi. Hein. Quand il envoie ses hommes au Mali, il s'en fout de savoir comment ça se passe.
Il veut venir au Moyen-Orient faire la paix.
Mais évidemment. Les Zadiks. Bekitzo.
Ce qui est étonnant toute cette histoire, c'est que le monde entier, il a pris... Ils ont d'une certaine manière défendu le Hamas.
Mais bien sûr. Je vais pas parler de la dernière Maharaja, le Hamas, machin, mais vous comprenez que ici, on est contre la guerre. La guerre, c'est pas bien. Mais quand des barbares nous attaquent, on doit être plus barbare qu'eux pour les calmer. C'est tout.
Pour que le barbare ait peur de nous.
Exactement. Exactement.
Et s'il a peur, c'est un toutou.
Voilà.
À l'époque, on avait...
Il faut être capable d'être barbare.
Les juifs espagnols exilés.
Mais bien sûr.
Barberousse, c'est un juif.
Mais tout à fait.
Qui a décidé d'affaiblir les forces espagnoles sur la mer.
Alors, je pense que, sans vouloir...
dans le bateau.
Tu as bien vu la vidéo de Chauffard, de notre ami le guide Ariel Assaf. Très belle vidéo d'ailleurs. Comme tout ce que fait Chauffard d'ailleurs, très bien. Mais je pense, sans vouloir être un petit peu méchant, que tu devrais la revoir.
Oui.
Parce qu'effectivement, il a été fait question de Barberousse, mais ce n'était pas le juif. Ils ont expliqué là-bas justement que les Espagnols avaient comme pire ennemi un monsieur qui travaillait pour l'Angleterre, pour Amsterdam, qui s'appelait Barberousse, et il y en avait un deuxième... qui, lui, c'était le pirate juif.
Oui, le pirate juif.
C'est-à-dire, donc, Barberousse, c'est pas lui le pirate juif.
Ouais,
Il y en avait d'autres, des pirates juifs qui étaient comme Barberousse. Mais effectivement, je pense que le monde entier a peur des roues, en fait, de manière générale. Ça fait peur, les roues. C'est pour ça qu'ils avaient peur de Barberousse. Si c'était appelé Barbe Noire, ils n'auraient peut-être pas eu peur de lui.
Il y en a que deux ici qui ont des cheveux qui ne sont pas blancs. Alors, nous, vous ne pouvez pas savoir si on n'était pas roux avant.
Bekitso, Rapotai, El Malazot, vous avez compris l'idée. Il faut absolument se battre avec les armes et le langage de l'ennemi.
Mais la recette pour être barbare, c'est quoi?
Pour être barbare?
Ouais.
Et se laver après de sa barbarie qu'on a fait.
Puisqu'on est barbare, on doit être barbare plus que.
Ouais.
Mais moi, je ne sais pas ce que c'est.
Ah ben, regarde-les, ils t'apprennent bien, ils vont t'apprendre. Alors, il y a quand même une question que tu as posée qui est bonne et qu'il faut répondre. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour nous, pour notre identité? Est-ce qu'on ne perd pas notre identité? C'est une question. Tchouva, tchouva, l'eau. On ne perd pas notre identité lorsqu'on a des valeurs. Et je vais vous expliquer cela par des faits. Vous connaissez tous cette fameuse histoire de cette jeune étudiante arabe-israélienne qui a fait un devoir de master, c'est pas une thèse, je ne sais pas ce que c'est en master. Bon, en fin de deuxième cycle, où elle a fait, était en étude à l'université de Haïfa en sciences politiques, et son devoir, c'était sur le fait que les soldats d'Israël sont racistes. Et sa thèse a été démontrée par le fait qu'il n'existe aucune armée dans le monde et dans l'histoire qui a occupé une population civile pendant une longue période et qui n'a pas violé les femmes. Or, Israël occupe les populations arabes depuis 70 ans et on a recensé aucun cas de viol de palestiniennes par des soldats israéliens. Donc c'est la preuve que les soldats israéliens sont racistes.
Ils sont pas attirants.
C'est la démonstration de l'absurde.
Ah écoute, alors je ne relèverai pas ce qui vient d'être dit. Je ne relèverai pas ce qui vient d'être dit sur la qualité esthétique des jeunes femmes du monde arabe. Je m'inscris en faux, c'est faux. Il y a des jeunes femmes arabes qui sont très jolies, c'est pas le débat. Mais on ne fait pas ça.
Mais comment on peut oser soutenir une thèse absurde?
C'est une thèse absurde. Elle te dit, j'ai été vérifié dans tous les pays du monde. C'est basé sur des faits. Elle te dit, dans tous les pays, toutes les cultures, les soldats qui sont là depuis longtemps, ils violent des femmes.
Oui.
Israël, non.
Il a une éthique, Israël.
Rien fait. Ça, tu dis la conclusion que toi, tu en tires. Elle est différente.
S'il y avait des Suédoises, la question est...
Oh, ça c'est autre chose, hein.
Chacun ses goûts, mon ami. Bon, en tout cas, je suis désolé, mais Zélonachon, via la Torah, elle nous a parlé de Isha Yefat Torah. Ça veut bien dire qu'il y avait des femmes dans cette région du monde qui étaient très jolies.
Sûrement.
C'est pas le débat. Il y a aujourd'hui encore, à Gaza, des femmes très jolies. C'est pas le débat. C'est-à-dire, donc, pourquoi on ne viole pas les femmes? Parce qu'on ne viole pas les femmes. Donc, quand on a des valeurs et qu'on a Torah Tenu Akedosha, eh bien non, on ne tombe pas. C'est-à-dire, il y a plein de gens, j'ai reçu du Rav Cherki, qu'il y a plein de gens qui disent, dans le quartier gauche de l'émissaire de la vie politique, qui disent que Akibush Mashrit. Que le kibouche rend immoral.
C'est quoi le kibouche?
La conquête, l'occupation. Et le Rav Cherki nous avait expliqué que c'est lo nachon, quand on a de la Torah, à kibouche ou lo mashrit. Par contre, non, sans exception. Par contre,
la Torah c'est l'exception.
Par contre, il dit ceux qui ont la Torah, des fois, chez eux, le kidouche mashrit. Et quand on sort les viennoiseries, effectivement, tu peux avoir des gens qui ont plein de Torah, mais là, leur valeur n'existe plus et ils peuvent pousser et réussir à passer devant le plateau de Petit Four avant son prochain. C'est vrai. Des fois, le kidouche mashrit, mais pas le kibouche. Ça a l'air. Donc, c'est une réalité, Rabotai. Il faut parler avec son ennemi, le langage qu'il comprend. Maintenant qu'on a dit ça, Eh bien, on peut rentrer dans le texte de Milchama du Rav Kook. Il faut savoir qu'il y a très peu de rabbins qui ont, pas qui ont parlé des guerres, il y a plein de rabbins qui ont parlé de la guerre, mais qui en ont fait une étude systématique et chitatique avec des paragraphes bien déterminés, il y en a très peu. Il y a le Rambam qui a écrit « Ilchot Melachim ou Milchemotehem », les lois sur les rois et les guerres, et le Rav Kook.
C'est tout.
Je crois que c'est tout. Qui ont parlé, pas qui ont écrit des choses sur la guerre, plein de rabbins, mais qui en ont fait tout un chapitre, voilà, enfin, toute une partie dans un livre avec 10 chapitres et tout ordonné, structuré, j'en connais pas d'autres. Peut-être que je me trompe, mais j'en connais pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que nous dit le Rav Kook ? Iné, Amilchama, Perek, Aleph. Kshayesh, Milchama, Gedola, Baolam. Et là, on devrait rajouter « plus la guerre est grande ». C'est-à-dire qu'il dit « quand il y a une grande guerre dans le monde ». Moi, je rajoute « plus la guerre est grande ». « Az mitorer koach mashiach ». Incroyable. Lorsqu'il y a la guerre, et plus la guerre est grande, plus se dévoile la force du mashiach.
On dit si c'est une guerre,
il faut d'abord qu'il soit là.
Omchané. Et pas forcément que dans l'âme Israël. Agar, il faut que vous vous rappeliez que tous les paragraphes, les 10 paragraphes de la partie qui s'appelle Amilchama, le Rav Kook les écrit pendant la guerre. Pendant la Première Guerre mondiale. Donc lui, il a vécu la guerre. Il est, pendant la Première Guerre mondiale, il a des péripéties de fou, puisque juste avant la Première Guerre mondiale, il part d'Eretz Israël en Europe. Il part parce qu'il est invité au congrès de la Agudat Israël en tant que star guest star Gdol Ador. En 1913, il part. Et il est invité par le Chafetz Chaim, pas n'importe qui, pour parler le sujet du congrès, c'est l'assimilation. Et le Rav Kook vient apporter la solution Israël. Et en Europe, l'assimilation grandit. Regardez ce qui se passe en Israël. Et donc, il est invité pour parler de cela. Et finalement, bah, il n'aura ni congrès ni rien du tout parce que la guerre éclate. Il y a Franz Ferdinand a la bonne idée de se faire massacrer à Sarajevo. La Première Guerre mondiale éclate. Et donc, à ce moment-là, le Rav Kook est amené en prison. Pourquoi il est en prison ? Parce qu'il est russe, exactement. Et que les Russes ne sont pas les alliés des Allemands. Donc il est emmené en prison. Et bon, finalement, il va sortir de prison. Il passe en Suisse. Il va passer un an et demi en Suisse chez M. Kimri. Et de là, la communauté de Marzike Hadat de Londres entend qu'il est en Suisse et le fait venir à Londres pour devenir le rabbin de la communauté. Et il accepte à une condition que lorsqu'il peut rentrer en Israël, il rentre. Et donc, finalement, il va se retrouver à Londres, le rav de la Keïla de Marzike Hadat.
Il s'appelait déjà le rav Kook, c'était Rav Shor.
Non, mais il s'appelait le rav Kook depuis le début. Il s'est toujours appelé Rav Kook.
C'est quoi alors on avait dit Rav Shor.
Non, tu sais que très souvent, on appelle les rabbanim par leurs livres.
Oui.
Or, le premier livre qu'il écrit, c'est Midbar Shur. C'est vrai ? Donc, on va s'habituer à l'appeler Baal Ashur. Baal Ashor, Arav Shur, mais il s'appelait le Rav Kook.
Ah, c'est son nom de Bouddhisme. Je pensais qu'il était Rav Shor et puis
il s'appelait Rav Kook. Il s'appelle Rav Kook. À la base, il s'appelle Rav Kook.
Ah.
C'est
ça ? Cohen Kook ou à Cohen ?
Non. Comme tu veux. Enfin, comme tu veux. Tu mets Cohen avant, après, Michel. C'est ça ?
Et Kook, ça vient de Cohen, non ?
Oui, oui, quelque part c'est lié.
Non, le mot Kook, c'est lié au mot Cohen.
Non, le mot Kook, ça veut dire José. Voyant.
Pourquoi ?
En russe. Ok ? Bekitsour, donc finalement, il sera à Londres. Et là-bas, il écrit la plus grande partie, pour ne pas dire toutes les parties, de la Milchama. D'accord ? Donc il est dans l'ambiance de la Milchama. Donc, Shesh Milchama Gedola Baolam, Mitorer Koach Mashiach.
Peut-être rater un épisode de
la force messianique. Bah, le, bon, le, tout le processus messianique.
Que le Machiav se dévoile à ce moment-là.
Il dit que lorsqu'il y a une grande guerre, et puis je rajoute, plus la guerre est grande, plus ça, ça amène au dévoilement messianique. Alors,
quel exemple est ah, référence
ça, évidemment, tu poses une bonne question. D'où, de pourquoi? D'abord, d'avoir Rishon, plus la guerre est grande, plus le monde évolue. Il y a, à chaque fois qu'il y a une guerre, et plus elle est grande, à ce moment-là, il y a des évolutions, des avancées énormes dans le monde, dans tous les domaines.
La médecine,
la technologie, les idéaux.
C'est psychologique, c'est le
besoin. Non, même pendant la guerre. Ben évidemment, pendant la guerre, la technologie, elle fait un bond énorme, parce qu'on est obligé de trouver des solutions à des problèmes technologiques. Alors évidemment, c'est dans l'armement, mais des fois, c'est pour arriver à l'armement, on a besoin de moyens de transport qui vont après être réutilisés dans l'industrie. Et boum, on va créer des nouveaux moyens de transport. On va réussir également dans les moyens de communication. On doit trouver des solutions. C'est grave, mais c'est vrai.
L'aviation.
Et là, saute. Il y a eu des avancées médicales énormes pendant les guerres parce qu'on était obligé de soigner les soldats. Je vais même te dire quelque chose qui est terrible. Mais il y a des avancées médicales incroyables qui ont été faites pendant les expériences médicales faites à Auschwitz. Donc est-ce qu'on s'en serait bien passé? Oui, évidemment qu'on s'en serait bien passé. Mais le fait est que ça a fait des choses. Ça a l'air. Au niveau de l'industrie, au niveau de la technologie, et je dis aussi au niveau des idées. Puisque la guerre, en général, part sur une idée, et la guerre va faire en sorte que les idées vont se développer. Quand on regarde ce qui était avant la Première Guerre mondiale, la plus grande guerre de l'humanité, les guerres napoléoniennes. Qu'est-ce qui est sorti des guerres napoléoniennes? Eh bien, est sorti directement la révolution industrielle. Que les pays ont commencé à comprendre que Napoléon y gagnait parce qu'il avait plus d'hommes, et donc il faut trouver une solution maintenant pour, si on a moins d'hommes, comment on ne perd pas? Et donc on va développer l'industrie, et c'est la révolution industrielle. C'est magnifique la révolution industrielle. Les idées républicaines, les idées de la Révolution française vont prendre force dans le monde grâce aux guerres napoléoniennes. Donc c'est évident qu'on n'aime pas la guerre, mais la guerre fait avancer les choses. Achav, Bemouvan, juif, au niveau juif, toutes ces avancées-là, ça s'appelle le messianisme. Le monde ne peut pas être délivré dans une époque... barbare, chaotique. Mais si vous voulez encore plus avoir un exemple clair, eh bien, Rabotaï, là, on parle de la Première Guerre mondiale. Quelles sont les avancées messianiques de la Première Guerre mondiale?
On a eu
l'indépendance.
D'abord, on a eu autre chose, qui est plus générale. Après la Première Guerre mondiale, l'humanité s'est dit, ce serait bien qu'on fasse un organisme pour faire la paix. Ils ont fait la SDN.
Le réveil des nationalités.
Et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Déclaration Balfour. Mais c'est énorme. Et ça répond à ce que l'un des pirates juifs avait évoqué, Arav Menaché Ben Israël, qui explique... que pour lui, la compréhension du verset, lorsque dans les prophètes on nous dit que le dévoilement de Dieu sera lorsque son nom sera connu, Gamba Iim Arechokim, également dans les îles lointaines. D'après lui, les îles lointaines, ce n'est pas les Fidji, ce n'est pas Hawaï, c'est l'Angleterre. Et donc il viendra voir le Rav Menaché Ben Israël au XVIIe siècle, il viendra voir Cromwell pour le convaincre de lever l'interdit des juifs habiter en Angleterre. Cromwell, en bon protestant, sera tout à fait convaincu par l'idée, va permettre aux juifs de revenir en Angleterre, ce qui va permettre à la communauté juive de se réinstaller, ce qui va permettre à avoir une communauté juive à Londres, ce qui va leur permettre de faire venir le Rav Kook, ce qui va lui permettre de dire à Balfour, c'est une très bonne idée ta déclaration Balfour, ce qui va permettre d'amener à la création d'Israël et du messianisme, Chazak. Au revoir.